De la Rome antique à la France gaulliste, nous entrons cette semaine dans la tête des chefs d'État pour comprendre leur vision de l'économie. Pourquoi la reine Elisabeth Ière a-t-elle accordé autant de monopoles marchands dans l'Angleterre du XVIe siècle? Le général de Gaulle était-il plus libéral que ce que la prospérité en a retenu? Et comment Jules César a-t-il posé les bases de la prospérité de l'Empire romain? Allez, justement, prenons la direction de la Gaule qui s'apprête à tomber sous la coupe de Rome. Pour parler de l'économie selon Jules César, nous avons le plaisir d'accueillir en studio deux historiens, Jérôme France, professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, rattaché à l'Institut Ausonius, et auteur de cet ouvrage, Tribu, une histoire fiscale de la conquête romaine, paru aux belles lettres. Également avec nous, Katia Shirley, chargée de recherche au CNRS, rattachée au centre Camille Julian et à l'université Aix-Marseille. Une émission proposée par les centurions de l'écho, Thibaut Moméja, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Théo Gian Greco.
César était un homme de guerre et un cavalier accompli, d'une endurance incroyable. En marche, il précédait ses troupes, quelquefois à cheval, plus souvent à pied, la tête découverte malgré le soleil ou la pluie. Il couvrait de très longues étapes avec une incroyable célérité, sans rien emporter avec lui, dans une voiture de louage, parcourant chaque jour une distance de 100 000 pas. Si des fleuves l'arrêtaient, il les franchissait à la nage, ou soutenu par des outres gonflées, de sorte que, bien souvent, il devança ses courriers.
Katia Shirley et Jérôme France, bonjour.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. C'était un extrait de La vie des 12 Césars de Suétone. C'est un auteur qui a contribué à forger le mythe de Jules César, Jérôme France.
Bien, oui, bien sûr, parce que Suétone a écrit une vie de César qui est une source absolument irremplaçable. Mais vous savez, finalement, le premier propagandiste de la vie de César, c'est César lui-même. Puisque César, un certain nombre d'ouvrages sont perdus. Mais nous avons quand même l'essentiel, c'est-à-dire ses commentaires sur la guerre des Gaules, donc son récit de la conquête de la Gaule, et puis ensuite son récit de la guerre civile, c'est-à-dire celle qu'il a portée au pouvoir.
Et c'est pour cela qu'on connaît l'art militaire de César, mais on connaît moins sa vision de l'économie. Et pour la découvrir, il faut resituer la vie de Jules César dans le temps long de la Rome antique. Lorsque Caius Julius César voit le jour, aux alentours de 101 avant Jésus-Christ, la République romaine est déjà vieille de 4 siècles, Katia Shirley.
Oui, tout à fait. Donc Rome a déjà une très longue histoire derrière elle. Elle a déjà vu passer les rois et puis l'institution de la République. Donc en effet, c'est pas du tout une jeune République qu'on a devant nous, mais c'est quand même une République qui c'est à un moment où l'on a de nombreux troubles sociaux à l'intérieur de l'Italie, et ça, c'est une période donc qui va être clé, une période difficile qui va faire de sorte que qui va pousser d'ailleurs Jules César au pouvoir, qui va créer des situations particulières d'endettement des gens. La vie politique à Rome va être très très chère et on va probablement en parler plus en détail.
Effectivement, au moment où César naît, c'est 4 siècles qui viennent de s'écouler, 4 siècles de République romaine, d'enrichissement grâce aux conquêtes et à l'essor des échanges, Jérôme France, même si effectivement on assiste à une montée des inégalités en ce premier siècle avant Jésus-Christ.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, Rome s'est lancée dans un processus de conquête qui a d'abord été marqué par la conquête de l'Italie, qui est une étape extrêmement importante et d'ailleurs souvent négligée par les historiens. Et puis ensuite, la conquête du bassin méditerranéen, avec un grand moment qui est le IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, c'est la conquête de l'Occident qui est consécutive en grande partie à la chute de Carthage. Donc là, nous sommes en 200 avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, donc, progressivement, la conquête de l'Orient également. Et donc, on peut dire qu'au moment, effectivement, où naît César, Rome est à la tête d'un empire méditerranéen et une des plus grandes puissances, si ce n'est la plus grande puissance de son temps. Et bien sûr, comme vous le disiez, cette conquête a drainé vers Rome des richesses tout à fait considérables.
Il naît dans une famille patricienne, Jules César, qui appartient donc à la noblesse, mais qui n'appartient pas pour autant au cercle des très grandes dynasties. Et sa jeunesse est marquée par les violentes luttes politiques qui opposent à Rome les optimates aux populares. Alors expliquez-nous peut-être, Katia Shirley, quelles sont les revendications des uns et des autres et où se situe Jules César ?
Eh bien, Jules César, donc il naît dans le quartier de la Subure à Rome, donc un quartier qui est populaire, même si il est d'une lignée patricienne. Mais c'est sa mère Aurélia qui va vraiment s'occuper de sa culture et ses relations avec Marius qui vont le former. Donc il va être plutôt dans ces deux clans du Sénat qui vont être dans les optimates et les populares. Donc il n'est pas de tradition plutôt conservatrice comme il devrait l'être de par sa lignée patricienne, mais il va plutôt être du côté des revendications des populares. Et donc c'est ce mouvement d'aide aux citoyens, de réforme qu'il va se situer.
Alors c'est effectivement la tante de Jules César qui a épousé Marius, le chef du parti des Populares. Est-ce que César va être durablement influencé par ses idées, Jérôme France, en faveur justement d'une plus grande redistribution à un moment de creusement des inégalités ?
Oui, alors indiscutablement, Katia a raison, c'est-à-dire que le milieu familial a beaucoup pesé. Caius Marius, c'était l'oncle par alliance de César, un personnage tout à fait extraordinaire, qui a joué un très grand rôle, en particulier avec une réforme militaire extrêmement importante. Et donc César a cet héritage. Il a lui-même épousé aussi une femme qui était très liée au parti des Populares. Et c'est évident qu'il est dans cette optique. Mais il faut rappeler que c'est Populares sont eux-mêmes des aristocrates. Mmh. Bon, bien sûr, César est un patricien. Les patriciens, il faut rappeler que c'était les descendants des plus anciennes familles de l'aristocratie romaine. Mais la famille de César elle-même était un peu une famille de déclassés. Finalement, ses ancêtres directs n'avaient pas géré de grandes charges. Et donc, on peut penser que César avait peut-être une sorte de revanche sociale à prendre aussi. Ça peut expliquer une partie de son parcours.
Et cette revanche, elle passe par le fait de gagner de plus en plus de pouvoir. Et pour acquérir du pouvoir, pour gravir les échelons, Katia Shirley, César va avoir recourir en particulier à l'argent, en se rapprochant champ de Crassus, qui est réputé alors pour être l'homme le plus riche de Rome.
Oui, alors il va devoir avoir de nombreuses dettes et c'est justement cette période où de plus en plus, si on veut faire carrière politique, il va falloir faire des dépenses absolument extravagantes, non seulement par des spectacles, etc., mais également pour obtenir un poste. Et on sait d'ailleurs que César à un moment donné va être endetté de plus de 25 millions de sesterces. Et quand il veut devenir Pontifex Maximus, c'est-à-dire le plus haut poste religieux institutionnel, il est tellement endetté qu'il va dire à sa mère, soit j'ai ce poste, soit je vais devoir aller en exil. Et son opponent justement va proposer de lui racheter une partie de ses dettes s'il renonce à sa candidature, ce qu'il ne va bien sûr pas faire puisque nous connaissons bien Jules César, ce personnage audacieux qui va préférer être toujours sur ce fil de rasoir, mais risquer tout, même jusque cet endettement absolument. Faramineux.
Donc ce sont les dettes et le clientélisme qui permettent à César de gravir les échelons du pouvoir tant et si bien qu'il parvient à devenir consul, soit la plus haute fonction politique de la Rome antique grâce au triumvirat qu'il va former avec Pompée et Crassus, c'est-à-dire peut-être le prestige et la richesse, Jérôme France.
Oui, voilà, tout à fait. C'est une alliance du prestige et de la richesse, les deux étant nécessaires pour faire une carrière à Rome. Le prestige, on le tire d'abord des armes, enfin d'abord bien sûr le prestige familial. Il y a un capital familial. Ensuite, il y a un capital de gloire militaire. Bien sûr, César, au début de sa carrière, n'a pas, mais il sait bien qu'il va devoir l'obtenir. Et puis, ensuite, l'argent. César n'en a pas beaucoup. Donc effectivement, c'est Crassus qui va être un de ses principaux financiers, et puis bien d'autres aussi débiteurs.
Alors nous sommes en 60 avant Jésus-Christ quand ce triumvirat avec Pompée et Crassus est formé, mais César effectivement n'a pas encore la gloire qui lui manque, celle des armes, et il va aller la chercher en Gaule. L'ensemble de la Gaule est divisé en trois parties. L'une est habitée par les Belges, l'autre par les Aquitains, la troisième par le peuple qui, dans sa langue, se nomme Celte et dans la nôtre, Gaulois. Tous ces peuples diffèrent entre eux par le langage, les coutumes, les lois. Les Gaulois sont séparés des Aquitains par la Garonne, des Belges par la Marne et la Seine. Les plus braves de ces trois peuples sont les Belges, parce qu'ils sont les plus éloignés de la province romaine et des raffinements de sa civilisation. Parce que les marchands y vont très rarement et par conséquent n'y introduisent pas ce qui est propre à amollir les cœurs. Enfin parce qu'ils sont les plus voisins des Germains qui habitent sur l'autre rive du Rhin et avec qui ils sont continuellement en guerre. C'est pour la même raison que les Helvètes aussi surpassent en valeur guerrière les autres Gaulois. Des combats presque quotidiens les mettent aux prises avec les Germains, soit qu'ils leur interdisent l'accès de leur territoire, soit qu'ils les attaquent chez eux. Voilà, vous avez reconnu cet extrait de La guerre des Gaules de Jules César. En une dizaine d'années, la Gaule tout entière va devenir une province romaine grâce aux conquêtes militaires de Jules César. Une conquête qui consacre le pouvoir de César à Rome et qui le rend riche, Jérôme France.
Oui, alors vous avez cité effectivement le début de la guerre des Gaules. Et donc César, qui tout de suite d'ailleurs dit que la Gaule est divisée en trois parties, ce qui est une des raisons de sa victoire finale, c'est-à-dire qu'il a eu affaire à une Gaule qui était politiquement divisée. Il a pu s'appuyer sur certains partis, certaines cités gauloises contre d'autres. Et bien sûr, la guerre des Gaules, en 8 ans, permet à César d'acquérir deux choses. La première, comme vous le dites, c'est d'abord de l'argent. C'est-à-dire le produit du butin en particulier. Et la deuxième, c'est un outil militaire, c'est-à-dire un ensemble d'une dizaine de légions. Donc ça représente peut-être 40 à 50 000 hommes qui lui sont complètement dévoués. Et cet outil militaire, évidemment, est essentiel ensuite pour la guerre civile qui va l'opposer à Pompée et qui va lui permettre donc de s'imposer à Rome.
Mais ce sont des hommes à qui il s'agit de donner des terres. Katia Shirley, comment se répartit justement ce butin de guerre, de la guerre des Gaules ?
Eh bien, Jules César va donner ensuite des terres à ses vétérans. Donc, c'est plus tard, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fonder des colonies. On a par exemple la fondation de la colonie d'Arles qui va être donnée à sa 6e légion. Ça, c'est un bon exemple. Il va promettre ses terres et comme rétribution grâce aux loyaux services.
Il y a aussi une partie qui va être donnée à Rome, c'est-à-dire qui vient enrichir le trésor public de Rome, Jérôme France.
Oui, alors là, il faut revenir un petit peu sur le partage du butin. C'est-à-dire qu'à Rome, il y a des règles quand même strictes sur le partage du butin. Bon, il y a une partie qui va aux soldats, bien sûr, indépendamment de ce que les soldats, bien sûr, eux-mêmes récupèrent sur le terrain. Bon. Mais disons, dans le butin officiel, une partie va aux soldats, et puis il y en a une partie qui est laissée au général. Mais sur cette partie-là, eh bien, on attend que le général, d'une part, en verse une somme au trésor public, et puis on attend aussi qu'une autre partie revienne au peuple romain, par exemple, sous forme de jeux ou de banquets qui sont offerts au peuple, ou encore sous forme de constructions monumentales que l'on édifie à Rome pour le plaisir du peuple, pour l'agrément du peuple.
Et puis conquérir une nouvelle terre, c'est aussi soumettre les peuples qui y habitent à l'impôt, un impôt qui peut prendre différentes formes, mais qui peut notamment être un impôt en nature, en denrées alimentaires par exemple, Jérôme France.
Oui, alors l'impôt qui est mis en place ensuite, donc en particulier dans le cas de la Gaule, c'est un impôt qui est d'abord en espèces monétaires. On sait par exemple que Jules César a exigé des Gaules, à l'issue de la conquête, un impôt de 40 millions de sesterces. C'est une somme qui n'est pas considérable, en fait. Mais c'était essentiellement des espèces monétaires dont Rome avait besoin, en particulier pour payer les troupes.
Il s'agissait aussi de ne pas écraser l'économie gauloise avec cette idée de conquérir, mais aussi peut-être de fidéliser ces populations, Katia Shirley.
Oui, peut-être il y a également une notion de fidéliser, de partager. La fondation d'Arles, en effet, le passage de construction architecturale, c'est peut-être une façon d'imposer Rome aussi, mais c'est aussi de faire travailler les gens et en même temps faire partager la culture romaine. Une des choses qui est importante tout au long de la guerre des Gaules et d'autres, c'est que le commerce ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que les bateaux tels que ceux que l'on connaît, la Madrague de Gian, qui est un bateau qui est découvert vers cette période-là, avec 7000 amphores, et qui est un témoignage magnifique des échanges commerciaux entre Rome, les plaines fertiles de Terracine, et le sud de la Gaule, eh bien, ils sont encore là. Donc oui, il y a toujours, même sur ce fond de guerre, les échanges commerciaux qui sont extrêmement importants.
D'une façon générale, on peut dire que Rome, qui est encore une république à l'époque de César, s'est largement enrichie grâce à l'impôt imposé justement au peuple conquis et qui permettent notamment de mettre en place la nonne, qui permet de donner des grains à la population romaine, Jérôme France.
Oui, Rome s'est largement enrichie. D'abord, effectivement, on disait grâce au butin, grâce à l'impôt, grâce aussi aux indemnités de guerre qu'elle imposait aux vaincus. Et bon, il y a d'ailleurs des tentatives de quantification qui ont été faites par certains historiens qui ont montré aussi que, selon une expression maintenant bien connue, un peu galvaudée, il y avait aussi une forme de ruissellement dans la société romaine. C'est-à-dire que l'argent, bien sûr, de la conquête profitait à l'État romain, il profitait surtout aux riches, mais il y avait quand même des retombées qui touchait l'ensemble de la société. Et puis, si vous me permettez juste d'ajouter un mot, je voudrais dire que, comme vous le disiez, finalement, Rome a toujours été confrontée dans ses conquêtes à un paradoxe. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut exploiter la conquête, mais en même temps, il faut aussi, je dirais, garantir qu'il y ait une forme de... Comment dirais-je, il ne faut pas compromettre la domination romaine. Donc ça veut dire qu'il faut quand même imposer quelques limites à cette exploitation et donc travailler, comme le disait Katia, à ce qu'il y ait une forme, peut-être pas de consensus, mais au moins d'acceptation de la conquête.
Et c'est pour ça que depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ, les habitants des provinces conquises peuvent se plaindre en cas d'abus de pouvoir et de détournement d'argent des pouvoirs romains. Et d'ailleurs César, je crois, va aller encore plus loin dans cette forme de loi anticorruption.
Tout à fait, oui, là, vous utilisez ce terme de loi anticorruption, qui est un terme qu'on peut tout à fait reprendre, parce que en latin, les Romains parlaient de loi de repetundis pecuniis. Alors bon, bien, c'est du latin.
Il va falloir que vous le traduisiez.
Voilà, oui. Mais ça veut dire loi pour récupérer l'argent. Voilà, et on peut pas mieux dire, parce que là on comprend très bien de quoi il s'agit, c'est-à-dire que les Romains, enfin d'abord les citoyens romains et puis ensuite les provinciaux, bon, pouvaient effectivement aller se plaindre à Rome. Il y avait donc un tribunal qui existait, une cour permanente, et ils pouvaient se plaindre des abus qui avaient été perpétrés par le gouverneur ou par des agents de l'autorité romaine, et donc éventuellement pouvoir récupérer l'argent.
Et c'est aussi pour cela, pardon de vous couper, que ce sont, à partir du moment où César arrive au pouvoir, les publicains qui collectent l'impôt, enfin ce ne sont plus, pardon, les publicains qui collectent l'impôt, mais les cités provinciales pour éviter ce genre d'abus.
Voilà, alors César là a fait plusieurs choses, c'est-à-dire que d'abord il y a une loi, c'est-à-dire que, alors, il y avait eu des lois avant César, effectivement, pour mettre en place cette législation anticorruption. César n'est pas le premier. Il a fait voter une loi, disons, qui systématisait un peu tout cela, qui sans doute aggravait qui aggravait les sanctions. Et puis, effectivement, il y a cette grande mesure. Disons que c'est plus localisé qu'on ne pense. Parce que ça concerne d'abord la province d'Asie. C'est-à-dire qu'après sa victoire sur Pompée, César a séjourné un temps en Asie. Et là, eh bien, il a pris une décision. D'abord, il a fait une remise d'impôts, ce qui était évidemment pour s'attirer la popularité des habitants de la province.
À quoi correspond la province d'Asie, simplement pour se rendre compte ?
Alors, la province d'Asie, en gros, ça correspond à la partie orientale de la Turquie actuelle. La côte ionienne, c'est la partie la plus riche de l'Anatolie antique. Et donc, une remise d'impôts. Et puis surtout, comme vous disiez, ça c'est tout à fait important, c'est-à-dire que désormais, ce ne sont plus les publicains, c'est-à-dire ces entrepreneurs privés qui agissaient pour le compte de l'État romain, qui perçoivent l'impôt, ce sont les cités elles-mêmes. Et ça n'est plus un impôt variable, c'est un impôt fixe.
Et c'est un système qui sera repris par Auguste.
Tout à fait.
Soldats, les augures se sont prononcés.
À la prochaine lune, nous envahirons
l'île
de la Grande-Bretagne. Soldats, le monde entier a les yeux fixés sur vous.
Soldats, le monde entier a les yeux fixés sur
vous. La gloire de Rome.
Vous êtes la gloire de Rome.
Partout dans ce pays,
jusque
dans les plus petits villages, on paie l'impôt à César.
Tu avais promis de lui parler.
Mais à quel sujet?
Mais tu le sais très bien, au sujet de ce village gaulois qui continue de nous résister.
Mais César s'en fout comme de sa première tunique, voyant. Il a d'autres chats à fouetter.
Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Je vais lui parler.
Voilà, extrait du film Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi, sorti en 1999 avec Roberto Benigni et Christian Clavier et Gérard Depardieu. La fiscalité qui est imposée aux Gaulois va permettre à César de gagner encore de nouveaux clients et de gagner en popularité, Katia Shirley. Notamment, il va financer le Forum Julium à Rome, qui lui permet de concurrencer le Forum de Pompée.
Oui, tout à fait. Ce forum, il est construit grâce au butin de Gaulle, et il va installer un nouveau centre de pouvoir. C'est-à-dire que c'est quand même une action assez forte de voir déplacer les activités depuis le forum à ce nouveau forum, donc qu'il va construire, qui va être excessivement cher aussi, puisque rien que l'achat pour le sol du forum, ce sont 100 millions de sesterces qui sont engagés, donc de fortes sommes rien que pour l'achat du sol. Ce qui est intéressant, c'est de penser d'un point de vue de l'architecture, c'est-à-dire aussi, donc non seulement on va donner de l'architecture, des choses monumentales aux Romains, mais il y a également peut-être aussi une réflexion à se faire sur ce que ça permet de faire pour les gens, c'est-à-dire de construire, de changer cette image de Rome. C'est vrai que souvent on attribue à Auguste d'avoir changé Rome, de l'avoir transformé de briques en marbre. Mais encore une fois, on a dans les antécédents surtout Jules César qui a de grands projets architecturaux. Certes, le Forum qui lui permet de concurrencer Pompée, mais également toute une autre série de programmes architecturaux qui n'auront pas forcément lieu. Alors ça, c'est des grandes réflexions sur lesquelles s'est penché Pierre Gros. Mais on pense notamment à la déviation du Tibre. Telle est leur mission monumentale et architecturale également de Jules César.
L'objectif, c'est de donner des terres aux Romains.
Tout à fait. Donc l'objectif, en tout cas, de dévier le Tibre, c'est de doubler la taille du Champ de Mars et d'y installer des gens, de pouvoir créer de l'habitat, puisque Rome explose. Il faut agrandir la taille du pomerium, donc de la limite de la ville, et il faut pouvoir faire de la construction. Alors ça, ce sont des choses qu'on sait par Cicéron, qui est particulièrement inquiet de ces projets de changement totalement de la ville de Rome. Et que l'on sait qui était à un stade assez avancé, puisque Cicéron nous parle d'un architecte grec qui était employé à cela. et quelqu'un vraiment de renommée qui va pouvoir engager. Par chance, ces travaux n'ont jamais eu lieu et nous avons encore le magnifique timbre que nous avons aujourd'hui.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qu'on pourrait qualifier d'économiques ou de projets que l'on attribue à Auguste, qui est le premier empereur romain, le successeur de César, alors même que ces projets viennent de César. Je pense en particulier à la volonté de César de créer un port de la cité romaine qui serait digne de gérer le flux de denrées alimentaires. Ça, c'est vraiment une idée de César et il est le premier à l'avoir.
Ben c'est difficile parce que d'abord, enfin il y a deux choses. D'abord, bon, César n'a pas eu beaucoup de temps hein, quand même hein, pour mener à bien ses projets parce que finalement il est dictateur en vie à vie en 45, il est assassiné en 44. Bon, et effectivement c'est son fils adoptif Auguste qui a repris un certain nombre de choses. Mais évidemment le problème c'est que lorsque Auguste voulait faire passer une mesure, il disait que c'était une idée de César. Il disait, mais ça c'était dans les cartons de César, hein, donc en particulier lorsqu'il pensait que c'était des mesures qui pouvaient avoir une certaine impopularité. Donc il est difficile souvent de faire le partage des deux.
Mais ce qui vient de César en tout cas, c'est cette volonté d'assurer une certaine prospérité aux provinces, avec l'idée que c'est la meilleure façon de maintenir la domination de Rome. Et donc il y a un début de décentralisation pour leur assurer cette autonomie-là.
Oui, alors d'abord, bon, enfin, ça c'était quand même quelque chose qui était une idée des populares, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait quand même davantage intégrer les populations des provinces. Enfin, d'abord celle de l'Italie, ensuite celle des provinces. Ensuite, cette forme de décentralisation, elle est dès le départ, je dirais, dans l'ADN de la domination romaine. C'est-à-dire que Rome a toujours, et dès la conquête de l'Italie, Rome s'est toujours appuyée sur les communautés locales, et en particulier sur les élites qui dominaient ces communautés locales pour asseoir sa domination. Donc il y a une forme de subsidiarité dans l'Empire romain. L'administration elle-même, enfin romaine elle-même, est très réduite. Mais ce sont les communautés locales qui font marcher l'Empire.
L'économie, selon Jules César, c'est notre sujet aujourd'hui. Dans Entendez-vous l'écho, César, à qui le réalisateur américain Joseph Mankiewicz a consacré un film en 1953, d'après la tragédie de William Shakespeare.
France Culture, Entendez-vous l'écho. Tiphaine de Roquigny.
Tongue shriller than all the music, cries Caesar. Speak! Caesar is turned to hear.
Beware the eyes of Mars!
I come to bury Caesar, not to praise him. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man.
On vient d'entendre Marlon Brando dans le rôle de Marc-Antoine qui déclare après l'assassinat de César qu'il est venu l'enterrer et non pas lui rendre hommage. Pourquoi ? Car Brutus a dit que César était un homme ambitieux et Brutus est un homme honorable. Voilà ce que déclare Marc-Antoine dans cet extrait du film de Mankiewicz de 1953. Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons ce premier épisode de notre série intitulée Dans la tête des chefs d'État, une émission consacrée à l'économie selon Jules César, réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde par Ludovic Auger. Nous sommes toujours en compagnie des historiens Katia Cherley et Jérôme France. Alors nous avons quitté Jules César au lendemain de la guerre des Gaules vers 50 avant Jésus-Christ. À cette époque, Caton le Jeune s'inquiète de ce que César ne revient toujours pas à Rome.
Caton, le Sénat t'écoute.
Oh, Pompée le Grand, j'ai une question au sujet de ton ami et co-consul, le descendant de Vénus, Caius Julius César. Pourquoi son siège est-il vide? Pourquoi ne revient-il pas? Sa guerre illégale est terminée. La Gaule est à genoux depuis longtemps. 8 longues années durant, César, comme un loup, s'est abreuvé du sang de la Gaule et a amassé une fortune de façon honteuse. Pourquoi ? Pourquoi offre-t-il au peuple tant de combats, tant de courses et de festins démesurés ? Pourquoi s'est-il acquitté des dettes de tous les corrompus assis aujourd'hui sur ces gradins ? Pourquoi ? Je vais vous le dire, moi. Il veut s'acheter une couronne. Il veut détruire la République et tenir Rome entre ses mains de tyrans sanguinaires. Voilà pourquoi.
Voilà un extrait de la série Rome de John Milius, William MacDonald et Bruno Heller, dont la première saison a été diffusée en 2005, série HBO. Caton a vu juste, César veut le pouvoir pour lui seul, Katia Shirley, et il va l'obtenir.
Oui, alors César va revenir et il va revenir en franchissant le Rubicon, en déclarant justement, en créant une guerre civile. Et ce retour va donc va mettre en route cette marche vers la dictature, vers la position forte et unique de Jules César.
Et les Gaulois vont l'aider dans cette prise de pouvoir, notamment lors du siège de Marseille, qui est rallié à Pompée. Il va mobiliser des bataillons de Gaulois, Jérôme France.
Oui, il y avait des Gaulois qui servaient dans l'armée de César, d'ailleurs, depuis déjà longtemps. C'est-à-dire que même au moment de la conquête des Gaules, il y a déjà des Gaulois qui servent dans l'armée romaine. Et c'est un fait bien connu que, effectivement, il y avait, on connaît même des noms d'individus qui ont ensuite, et bien sûr, dans la carrière, a été évidemment favorisé par César et qui ont bénéficié aussi sur un plan financier de ce ralliement précoce à Rome.
Et alors, une fois arrivé au pouvoir, est-ce qu'il va mettre en œuvre le programme des Populares ? On a dit que c'était cette faction qui militait, si je puis dire, en faveur de la lutte contre les inégalités. Il va prendre des mesures, Katia Shirley, en faveur des travailleurs agricoles libres notamment.
Alors, il va prendre toute une série de mesures pour distribuer un peu plus de manière équitable. Mais alors, je vais dévier un petit peu, mais parler surtout de la crise qu'il a lui-même du coup engendrée, puisque son arrivée va créer un petit peu des remous, et il va falloir rectifier assez rapidement la situation de la crise de Rome.
Il entraîne une crise immobilière, mais ensuite il arrive à empêcher qu'elle dégénère. Il empêche une crise des subprimes avant l'heure, Katia Shirley.
Il y a un petit peu de ce concept de la crise de subprimes, dans laquelle, du fait de tous ces crédits, de ces gens qui ont emprunté beaucoup trop d'argent, qui vont vouloir annuler leur crédit, il va devoir mettre en place plusieurs lois permettant un peu d'arrêter ce saignement, puisque les valeurs immobilières vont avoir tellement décru qu'il va décréter que les valeurs vont être remises à leur valeur d'avant la guerre civile. Donc effectivement, il va devoir geler les prix immobiliers. Et également, il va déclarer que personne ne peut avoir plus de 60 000 sesterces, c'est-à-dire qu'on ne peut pas garder plus d'argent pour permettre une certaine liquidité, une certaine fluidité dans les finances.
Alors on connaît mal effectivement César comme quelqu'un qui avait cette capacité d'éviter une crise immobilière. Il y a cet aspect financier, Katia Shirley.
Oui, non seulement dans ces aspects-là, mais également donc pour revenir un petit peu aider le peuple, également le fait de recenser la population pour donner du blé à ceux qui en ont vraiment le droit. Alors ça peut sembler particulier, puisque en quelque sorte, c'est pas qu'il va retirer le blé de la bouche des gens, mais quand même, il va être le premier à recenser les gens quartier par quartier, maison par maison, pour pouvoir calculer les ayants droit de ceux qui vraiment ont droit à la distribution de blé gratuite. Et là, j'en reviens peut-être un peu plus à la question que vous m'aviez posée.
Jérôme France, sur ces mesures qu'on pourrait qualifier de mesures sociales de la part de Jules César.
Oui, alors, il faut quand même un petit peu revenir en arrière, puisqu'on a parlé d'Auguste, mais avant César, il y a quand même deux personnalités qui sont extrêmement importantes à Rome, ce sont les frères Gracques. Caius et enfin Tiberius l'aîné et Caius le cadet Gracchus, hein, donc qui ont tenté, alors c'était à la fin du deuxième siècle, dans les années 130-120 avant Jésus-Christ, qui avaient déjà tenté donc de mettre en place un certain nombre de mesures visant à redonner, je dirais, au peuple romain le contrôle, en particulier de ses ressources, de ses finances publiques. Ça s'est très mal terminé pour eux puisqu'ils ont été assassinés, lynchés même. Hein, bon, l'oligarchie sénatoriale a fait le nécessaire pour que ces projets n'aboutissent pas. Mais ça a laissé quand même une trace à Rome, et César, effectivement, est l'héritier des Gracques. Et on sait que les Gracques, après, c'est une postérité très importante, et encore sous la Révolution française. Bon. Mais effectivement, pour revenir à César, donc, il y a effectivement ces lois dont on a parlé, et qui, en particulier, mais visaient aussi à réglementer la distribution de blé à Rome, aux citoyens romains. Faut jamais oublier que le peuple romain, c'est le rentier de l'Empire, c'est un peu un peuple roi, et effectivement, à Rome, il y a cette habitude qui a été prise depuis déjà plusieurs dizaines d'années de distribuer du blé aux citoyens, pas forcément d'ailleurs les plus pauvres, mais aux citoyens qui étaient inscrits sur des listes. Il y avait eu beaucoup d'abus, et César donc a un petit peu remis de l'ordre dans ses procédures.
César va aussi réduire le nombre d'esclaves. Pour quelle raison, Jérôme France? Est-ce que c'est parce que l'arrivée massive d'esclaves entraîne peut-être un certain chômage du côté des travailleurs, notamment agricoles?
Je pense pas que César ait vraiment réduit le nombre d'esclaves. Il a plutôt augmenté. La conquête de la Gaule. Il y a des auteurs anciens qui disent que la conquête de la Gaule s'est traduite par 1 million de morts, 1 million d'esclaves, c'est-à-dire de captifs réduits en esclavage. Bon, alors, effectivement, dans la mesure où beaucoup étaient vendus, ensuite affranchis, peut-être on peut parler d'une diminution. Mais César n'était pas du tout sensible au sort des esclaves.
Mais ça n'est pas non plus pour des raisons économiques.
Non, non.
Alors César, qui de plus en plus met en place ce système qui devient progressivement monarchique, il veut être roi, ça lui attire des ennemis. C'est ainsi que le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, il est tué de 23 coups de couteau par des sénateurs. Écoutez le récit qu'en fait Suétone dans la vie des 12 Césars.
Il périt dans la 56e année de son âge et fut compté au nombre des dieux, tant par la déclaration de ceux qui lui décernaient cet honneur que par la conviction du peuple. En effet, dans les jeux consacrés à sa mémoire que donnait son héritier Auguste, une comète brilla pendant 7 jours de suite, se levant vers la 11e heure. Et l'on crut que c'était l'âme de César reçue dans le ciel. C'est pour cela qu'il était représenté avec une étoile au sommet de la tête. On décida de murer la curie où il avait été tué, d'appeler les Ides de Mars du nom de parricide, et de ne jamais assembler le Sénat ce jour-là.
Voilà, dans cet extrait de la chute de l'Empire romain, un péplum d'Anthony Mann réalisé en 1954, le philosophe Timonides propose, en 185 après Jésus-Christ, d'offrir la citoyenneté. Non, ce n'était pas absolument pas ça. Je me suis perdue dans mes papiers. Non, ce qu'on entendait ici, c'était plutôt la popularité de César qui est racontée par Suétone et qui demeure malgré ses velléités dictatoriale. Et alors, la question que je voulais vous poser, Jérôme France, avant d'entrer dans le détail des siècles qui suivent, c'est si cette popularité est en lien avec, justement, les politiques économiques dont on a parlé, mises en place par César.
La popularité de César, c'est quand même d'abord une popularité politique, mais c'est une popularité qui est un petit peu, qui sent un peu le soufre, parce que, comme vous l'avez dit, César a été soupçonné de vouloir rétablir la royauté. La royauté à Rome, c'est très mal vu. Les Romains sont tout à fait hostiles à l'idée de la royauté. Et à Rome, lorsqu'on voulait torpiller un homme politique, il suffit suffisait de dire qu'il prétendait à la royauté. Ça, c'était le moyen le plus sûr. Donc, effectivement, c'est ce qui a été reproché par César, qui a sans doute été imprudent, hein, dans sa façon, je dirais, d'accaparer le pouvoir. Et bon, ce qui a mené à ce complot un peu hétérogène, enfin, bon, d'opposant à sa politique. Et c'est surtout quand même, alors, l'héritage de César, c'est un héritage politique, mais revu par Auguste. C'est-à-dire que Auguste a bien compris ce qui avait marqué l'échec de César, et il a bien compris comment il fallait installer à Rome un régime personnel, mais surtout sans parler de royauté.
Et alors c'est ainsi effectivement que débute l'Empire en 27 avant Jésus-Christ, et Auguste, premier empereur, met en place une fiscalité qui s'inspire du système instauré par César, Katia Shirley.
Oui, je pense que Auguste va reprendre en grande partie toutes ces grandes lignes que, au final, César a mis en place et qu'il n'a jamais vraiment eu le temps de faire. Je ne sais pas si le paragone entre Kennedy et Johnson serait le bienvenu, mais en quelque sorte, si, il y a de nombreuses grandes idées qu'Auguste va pouvoir réaliser. Il va pouvoir restructurer la ville de Rome, ce que Jules César avait commencé, mais jamais, qu'il n'avait jamais pu tirer profit. Et c'est Auguste qui va tirer profit justement de ses avantages, tout en mettant en place et étant dans un contexte beaucoup plus serein, mettre en place la Pax Romana, qui va lui permettre d'établir au final les confins de l'Empire. Et de mettre en place une vraie politique entre les diverses provinces. Bon, il y a l'avantage également de l'Égypte, hein, donc ce dernier morceau qui manquait, qui va lui permettre également de mettre en place des actions commerciales et des échelles encore plus grandes. Mais tout à fait, à la base, ce sont vraiment les idées de Jules César qui sont mises en place.
Et après cette grande période de troubles qui a été le premier siècle avant Jésus-Christ, effectivement, c'est un âge nouveau qui s'ouvre avec l'arrivée d'Auguste au pouvoir. Les échanges sont relancés dans un empire largement pacifié, Jérôme France.
Oui, alors effectivement, Auguste arrive au pouvoir lui-même d'ailleurs à l'issue d'une nouvelle guerre civile. Donc il parvient au pouvoir, on est en 30 avant Jésus-Christ, hein, avec la chute d'Alexandrie. Et effectivement, Auguste a beaucoup insisté, mais c'était une réalité, sur le retour de la paix, qui était un vœu, évidemment, de l'ensemble des populations de l'Empire, avec quand même, après un siècle de troubles, de guerres civiles. Bon. Et ça, c'est vraiment un message politique extrêmement fort d'Auguste, le retour de la paix. Et c'est vrai que, à partir de là, l'Empire romain entre dans une période de paix, relative, hein, bien sûr, il y a toujours des guerres, il y a toujours des conquêtes, il y a un certain nombre de révoltes, il y a quelques guerres civiles, mais enfin, globalement, on peut dire que l'Empire romain connaît, trois siècles de paix, hein, jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ.
Et c'est à ce moment-là qu'on assiste à cet essor plus important encore des échanges, et cela grâce à une certaine libre circulation des hommes, des marchandises dans presque tout l'espace impérial, Jérôme France.
Oui, l'Empire romain est un espace ouvert. Hein. Un historien a même pu dire que c'était un espace connecté. On s'y promène librement, bien sûr. Voyage surtout ceux qui ont les moyens de voyager, bien entendu, ou qui en ont besoin. Hein. Mais on circule dans l'Empire romain. C'est un espace ouvert. On y commerce librement. Bon, il y a des douanes intérieures, bien sûr. Mais c'est quand même ce qui... Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était mis en avant par les habitants de l'époque, en particulier par tous ces rhéteurs grecs, hein, qui faisaient donc des éloges de Rome et qui insistaient toujours sur cet aspect tout à fait essentiel pour eux, qui était cette libre circulation dans l'Empire.
Et cet Empire romain est aussi un espace unifié par la monnaie. Alors il n'y a pas de monnaie unique, mais c'est une monnaie qui circule énormément et qui est convertible facilement d'une région de l'Empire à une autre, Jérôme France.
Oui, il n'y a pas de monnaie unique, mais enfin la monnaie est quand même largement établi sur les standards romains, hein, en Orient comme en Occident, et il y a une circulation monétaire importante. D'ailleurs, je pense plus importante même. Enfin, je veux dire qu'il va falloir attendre peut-être assez longtemps ensuite dans l'histoire de toute cette région pour parvenir à nouveau à un stade aussi avancé de circulation monétaire.
Le commerce est favorisé par l'empereur Auguste, mais également l'agriculture. Il y a une production agricole qui connaît un essor important, une diversification en ce premier siècle après Jésus-Christ, Katia Shirley.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut se souvenir que l'Empire, c'est avant tout une économie agraire qui est basée sur l'agriculture, la production de céréales, de vin, donc de ces vins dont on fait l'éloge, des vins d'Italie qui ont voyagé, mais également dans toutes les provinces. Donc oui, il va y avoir un essor des différents produits. Il ne faut pas oublier non plus que peut-être certaines des actions de Jules César, par exemple le fait de punir la ville de Leptismania lorsqu'elle est du mauvais côté de la guerre contre Pompée, eh bien la ville va devoir fournir 3 millions de litres d'huile à la ville de Rome. Donc ça permet dans un sens d'approvisionner la ville, d'être sûr qu'il n'y a pas de problème de nutrition, d'alimentation, mais c'est également ce qui va favoriser l'essor dans les provinces, c'est-à-dire que la ville de Leptismania, que l'on connaît bien par la suite, notamment par son empereur Septime Sévère, c'est une ville qui va vraiment fleurir grâce à l'essor et à toutes ces structures, toutes ces importations en quelque sorte technologiques, ces innovations et la mise en place d'infrastructures suite à l'incorporation de cette région dans l'Empire. Et des bases que ont posé Jules César.
Et la meilleure preuve peut-être de l'ampleur du commerce à cette époque, c'est la colline du Testaccio à Rome, qui est artificiellement formée par des millions de tessons d'amphores à huile. On peut dire que l'huile, c'était l'équivalent du pétrole au XXe siècle, Jérôme France.
Ah oui, parce que l'huile, on l'utilisait bien sûr beaucoup pour les usages alimentaires. Hein. La cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine à l'huile. Les soldats romains transportent avec eux cette cuisine, par exemple, enfin toutes les garnisons romaines qui sont installées sur le Rhin, sur le Danube, consomment de l'huile en très très grande quantité. On l'utilise aussi pour l'éclairage, hein, on l'utilise pour la pharmacopée, pour les soins du corps. Donc effectivement, cette richesse d'emploi de l'huile d'olive fait qu'on peut effectivement la comparer au pétrole. C'est un produit absolument nécessaire et bon, dont les emplois sont multiples. Alors la colline du Testaccio, oui, ça illustre bien. Enfin, c'est de l'huile qui vient d'Afrique, hein, au Testaccio. Et donc cette colline d'une cinquantaine de mètres de haut, hein, si je me souviens bien, qui est bien visible aujourd'hui dans la topographie romaine. Hein,
c'est aujourd'hui, je crois, un quartier de boîte de nuit.
Oui, c'est ça, voilà. Hein, et donc, en fait, ce sont des millions et des millions de tessons d'amphores, hein, qui ont servi à alimenter la population romaine. Et bien sûr, il y a Rome, mais il faut penser à tout l'Empire. Hein, c'est-à-dire que, et là, on envisage l'importance de ces courants commerciaux, hein, autour de l'huile, mais aussi d'autres produits, le vin, la sauce de poisson, etc.
Toutefois, après cet essor important du commerce, de l'agriculture, à la fin du IIe siècle, sous le règne de Commode, les premiers troubles reparaissent et l'Empire commence à décliner.
100 fois, nous avons essayé de persuader ceux que nous nommons barbares, combien il peut en coûter de faire la guerre contre Rome en brûlant leurs villages, en crucifiant leurs guerriers et en réduisant leur jeunesse à l'esclavage. Les incendies s'éteignent, on enterre les morts, les esclaves meurent peu à peu. Mais la haine que nous avons semée derrière nous subsiste. Il faut cesser de faire la guerre. Il faut transformer ces amis que vous me reprochez en citoyens pacifiques. Confions-leur pour les cultiver nos terres abandonnées.
Oui, je suis d'accord, qu'ils cultivent ces terres, qu'ils produisent des vivres, mais comme esclaves.
Non, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus avantageux d'avoir des esclaves. Les esclaves produisent moins que les hommes libres. Cherchons donc ce qui est à la fois profitable et juste. Accordons à ces gens le plus grand bien qui soit. Ne leur refusons pas le droit de jouir de la liberté romaine. La nouvelle se répandra dans le monde que Rome les a admis comme des égaux, et c'est seulement alors que nous aurons nos frontières humaines. La paix romaine que Marcus Aurelius avait promise.
Voilà, cette fois, c'était bien l'extrait de la chute de l'Empire romain, ce péplum d'Anthony Mann. Et donc, ce philosophe, Timonides, propose à cette période, donc nous sommes en 185 après Jésus-Christ, d'offrir la citoyenneté à ceux qui résistent à Rome. C'est un moment clé pour l'Empire romain, Jérôme France ?
Oui, alors, effectivement, on sait que l'épisode auquel vous faites allusion donc dans le film d'Anthony Mann, on peut retrouver un écho dans ce qu'on appelle l'édit de Caracalla, hein, c'est-à-dire la mesure prise par l'empereur Caracalla en 212 qui donne la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire, donc en excluant les esclaves. Donc là, on a effectivement l'aboutissement de tout ce mouvement d'intégration. Il faut quand même rappeler que, et là, ce que dit effectivement ce philosophe dans le film d'Anthony Mann est extrêmement intéressant, parce que ça fait déjà longtemps que Rome installe des populations barbares dans l'Empire. Hein, on a des exemples sous la République, mais dès le règne de Tibère, par exemple, et Tibère, c'est le deuxième empereur romain, hein, après Auguste, hein, donc il monte sur le trône en 14 après Jésus-Christ, et dès le règne de Tibère, on a déjà des installations de barbares dans l'Empire. Donc on leur donne des terres, souvent leurs chefs deviennent citoyens romains, et donc ils sont intégrés de cette façon, ce qui évidemment a aussi un avantage fiscal, puisque ces gens-là deviennent eux-mêmes des contribuables. Donc c'est une pratique ancienne, et puis ça a aussi un autre avantage, c'est que ces barbares aussi fournissent des contingents de soldats.
Mais on est à un moment de bascule, cette fin de deuxième siècle, début de troisième siècle, l'Empire romain commence à entrer en crise, Katia Shirley.
Oui, c'est souvent ce qu'on appelle le long troisième siècle, la crise. On va avoir une longue période de crise qui va se traduire par de nouveaux fronts qui vont s'ouvrir, donc des troubles aux frontières. Je peux penser par exemple en Afrique du Nord, il est vrai que on commence à avoir des troubles, et les relations de la Tripolitaine notamment vont commencer à être un peu plus difficiles, mais ça on va plutôt déjà vers le 4e siècle. Si on regarde du côté de l'Égypte, donc les fortins du désert oriental, donc ça c'est toute la partie qui gérait la sécurité de tout le commerce avec l'Inde. Donc il faut pas oublier que ce commerce impérial, si l'on veut, est extrêmement important. Il rapporte 25% de taxes pour l'Empire, donc c'est vraiment ce qui fait rentrer l'argent dans les caisses de l'Empire. Eh bien, toute cette zone, eh bien, à partir de 215 vers 250, on voit peu à peu l'abandonnement de tous ces fortins, probablement pour aller aider vers d'autres fronts. Donc il y a en effet un vrai problème, non seulement de troubles à l'intérieur de l'Empire, mais ça va également générer d'autres problèmes, notamment des problèmes de rentrée fiscale. Donc tout cet argent, si on estime à plusieurs centaines de millions de sesterces, donc des sommes très fortes, les rentrées d'argent de l'Empire, eh bien, on assiste vraiment à cette double crise.
Alors, on a largement dépassé le seul règne de Jules César, mais c'était intéressant de d'esquisser cette économie de l'Empire romain et ce qu'il a déclenché. Un dernier mot, peut-être, Jérôme France, rapidement, sur la conception césarienne de l'économie. Qu'est-ce qu'il faut en retenir aujourd'hui, très rapidement ?
Si vous voulez, je ne sais pas ce qu'on peut en retenir, parce que le problème, c'est que César n'avait peut-être pas lui-même une conception de l'économie. Hein, c'est-à-dire que pour ces Romains, quand même, l'essentiel, c'était la politique. Hein, le ressort essentiel de leur action, c'était la politique. Et les historiens de l'économie, je pense par exemple à Karl Polanyi, hein, ont bien montré que dans toutes ces périodes d'économie pré-industrielle, avant l'économie de marché, avant le capitalisme, l'économie était, intégrée dans la sphère des relations sociales, des relations politiques, etc. Cela dit, évidemment, ces gens-là avaient aussi conscience de leurs intérêts et des intérêts du peuple romain. Donc je pense que ce qu'on peut retenir de la pensée de César, c'est quand même l'idée d'une ouverture de l'Empire, d'une ouverture de l'Empire vers les populations italiennes, vers les populations provinciales, hein, et donc d'une intégration toujours plus grande des populations.
Merci beaucoup Katia Shirley et Jérôme France de nous avoir fait traverser plusieurs siècles de l'histoire de la Rome antique à travers justement le prisme de l'économie. Tribu, une histoire fiscale de la conquête romaine, c'est l'ouvrage que vous avez publié cette année aux Belles Lettres, Jérôme France. Un immense merci à tous les deux d'être venus dans nos studios.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver notre chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Cette semaine, c'est avec l'économiste Laurence Sialom.
Pourquoi, en incertitude radicale, notre passé ne nous dit rien sur notre avenir? Crise financière systémique, pandémie mondiale, événements météorologiques extrêmes, que ce soit des dômes de chaleur, des pluies diluviennes ou des feux de forêt géants et incontrôlables, nous avons tous ce sentiment que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où le passé ne sera pas forcément le point d'ancrage pour penser, gérer et affronter le futur. Nous sommes entrés dans le monde de l'incertitude radicale. Car oui, ces épisodes extrêmes ne relèvent pas du risque, au sens économique usuel du terme, mais bien de l'incertitude radicale. Quelle est donc la différence entre le risque et l'incertitude radicale? L'approche traditionnelle de la gestion du risque est tournée vers le passé, car elle repose sur des données historiques. C'est très évident en finance. La détermination des prix des actifs financiers, ce que l'on appelle le pricing, se fonde sur des distributions de probabilités, des risques et des rendements, censées fournir une information fiable sur le futur. Les choix financiers se font sur cette base. Les acteurs de la finance, banques ou gestionnaires d'actifs, évaluent donc les risques à partir de l'analyse des données historiques. Mais il n'y a pas que les acteurs privés qui considèrent que le futur peut être appréhendé à partir du passé. Les pouvoirs publics font de même, puisque la réglementation prudentielle prend également appui sur ces mesures de risque calculées à partir des données historiques. Nous changeons de monde avec l'incertitude radicale. C'est-à-dire en reconnaissant qu'il y a des événements, des contextes, des transformations socio-économiques sans précédent historique, ou encore avec un précédent si lointain qu'il n'apparaît plus dans les séries statistiques. L'outil statistique devient alors impuissant. Nos mesures, nos méthodes de quantification, c'est-à-dire nos méthodes de production de chiffres, à partir desquelles nous prenons des décisions économiques, perdent alors leur pertinence. Les régularités du passé ne peuvent plus guider nos actions. Pire, si nous perpétuons l'usage de nos méthodes usuelles de gestion des risques, nous sous-estimons gravement les événements auxquels nous devons faire face. Et donc, nous faisons des erreurs pouvant être dramatiques dans les réponses économiques que nous apportons. Pour illustrer cela, prenons l'exemple du réchauffement climatique. À ce jour, nos modèles sont incapables de précisément en quantifier les coûts. Mais nous savons néanmoins que ces coûts seront massifs et même potentiellement infinis pour l'espèce humaine, la Terre pouvant devenir proprement inhabitable si nous ne faisons rien. La simple reconnaissance des savoirs scientifiques faisant consensus, c'est-à-dire ceux portés par le GIEC, sur les processus d'emballement et sur les changements irréversibles du système climatique qu'ils induisent, doit nous pousser à agir immédiatement. Et cela, même si notre savoir sur comment convertir ces connaissances scientifiques en risques économiques et financiers, dans le langage du chiffre qui nous est familier, est très insuffisant. Cela doit nous conduire à imaginer de nouvelles boussoles à l'action, qui ne soient pas des chiffres produits à partir des données du passé. Quand la théorie du risque ne permet plus de guider l'action des États, des banques centrales et des régulateurs, il faut accepter de rompre en partie avec la gouvernance par les chiffres. Accepter de prendre des décisions sur la base d'approches plus qualitatives et guider l'action publique par un principe supérieur, un principe éthique qui intègre le bien-être des générations futures.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci d'avoir été avec nous. Demain, deuxième épisode de notre série Dans la tête des chefs d'État. On vous emmène dans l'Angleterre du XVIe siècle pour découvrir l'économie selon Elisabeth Ier qui déclarait avoir le cœur et l'estomac d'un roi. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
France Culture. L'esprit d'ouverture.